La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Au menu de notre club cet après-midi, nous allons découvrir la thérapie photodynamique pour soigner le cancer par la lumière. Nous irons sur les traces des grandes expéditions naturalistes pour une aventure de la biodiversité. Et puis nous ferons connaissance avec des créatures animales aux capacités inattendues. Je vous présente bien sûr mes invités dans un instant. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, la 11e expédition scientifique du bateau Tara.
Oui, Mathieu, la goélette vient de traverser l'Atlantique à toute voile et s'apprête à boucler son expédition thématique sur les coraux. Nous serons à bord, en direct, avec Sophie Becherel qui nous racontera comment les scientifiques et les marins ont appris à collaborer sur Tara.
Au large de Concarneau en l'occurrence, c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Sophie Vaux.
La tête au carré, le club. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et bienvenue aux invités du club cet après-midi, Céline Frochot, Aline Richard, Emmanuel Puydebas et Hervé Le Guyadère. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et bienvenue, Céline Frochot, vous êtes directrice de recherche au CNRS et pour le site The Conversation, vous avez écrit un article sur une technique en pleine évolution pour traiter différents types de cancers. Quel est le nom de cette technique exactement ?
Alors le nom de cette technique, c'est thérapie photodynamique. En abrégé, ça fait PDT, donc il suffit de retenir pomme de terre.
Ah ben très bien.
Et voilà. Mais en l'occurrence, nous n'allons pas parler de pomme de terre, mais plutôt d'une technique innovante et en plein essor, effectivement, pour traiter certains types de cancers.
On aura donc tous les détails dans un instant. On parlera évidemment donc des apports de cette technique avec Aline Richard du site The Conversation. Hervé Le Guyadère, vous êtes professeur émérite de biologie évolutive et vous signez ce livre « L'aventure de la biodiversité d'Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste, rien que ça ». Ça sort aux éditions Belin avec des dessins extraordinaires de Julien Norwood. Alors ce sont ces grandes expéditions qui ont permis de faire avancer la science, hein, Hervé Le Guyadère.
Oui, en fait, l'idée du livre, c'est que la biodiversité, les gens savent globalement ce que c'est, mais ils ne savent pas qu'il y a toute une histoire pour la découverte. Et que cette histoire est assez fantastique.
Et que c'est une affaire de terrain, en l'occurrence. On va beaucoup en parler tout à l'heure avec vous. Emmanuel Puydebas, vous êtes biologiste de l'évolution et donc vous publiez de votre côté cet atlas de zoologie poétique chez Artaud, avec des illustrations là aussi formidables de Julie Terrazzoni, un livre qui nous fait découvrir 35 créatures aux capacités étonnantes, comme par exemple ces méduses qui sont capables de rajeunir.
Oui, tout à fait.
Ça fait rêver, hein.
C'est
un peu les Dorian Gray de la mer, hein.
C'est ça.
Plus le temps avance et plus elle rajeunit.
C'est ça, elles sont capables de revenir à un stade polype, oui.
Allez, on va en discuter ensemble dans un instant d'autres exemples autour de ces animaux extraordinaires. Et bien sûr, les messages des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science, Caroline Taube, aujourd'hui, nous sommes en pleine mer, au large de Concarneau, à l'occasion de la 11e expédition du bateau Tara.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous allons prendre le large, respirer le grand air grâce à Sophie Becherel. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. On est au large du Finistère, de la pointe de Penmar. Alors on a passé 800 cette nuit et là, Tara navigue sous voile, au grand large, à 9 nœuds avec 30 nœuds de vent. Et je suis en compagnie de Martin Herthaud, le capitaine qui, pour ne rien vous cacher, vient de terminer la vaisselle.
Très bien. Donc le bateau achève sa 11e expédition scientifique, 2 ans de collecte d'échantillons sur les coraux.
Oui, et alors que Tara n'arrivera à l'Orient que demain après-midi, bah figurez-vous que la collecte continue ce matin et peut-être ce soir. Ophélie Da Silva, une scientifique jeune océanographe à bord, continue ses prélèvements, Martin.
Oui, c'est ça. En fait, on a arrêté les prélèvements de coraux. Donc, il y avait 3 espèces de coraux, 2 espèces de poissons et du plancton dans les coraux, pardon, avec autour aussi. Et parallèlement à ça, en fait, on avait des traits de filets de surface la nuit et le jour, puisque ce sont pas les mêmes organismes qu'on prélève à midi ou à minuit. Et en revanche, ceci, on les a continué depuis Panama jusqu'à l'Orient. Donc, on continue par les prélèvements de surface.
Alors, les résultats des échantillons de coraux prélevés, on ne les aura que dans quelques mois, voire quelques années, mais d'ores et déjà, quel constat visuel vous faites après 2 ans et demi de visite du Pacifique des récifs coralliens ?
Ça va un peu dans le sens de la constatation de l'Institut mondial de la ressource, là où il y a à peu près 25% des coraux qui étaient estimés blanchis ou morts, 50% d'une situation préoccupante et 25% bonne santé. Et c'est à peu près ce qu'on a remarqué, par exemple, avec des sites complètement différents, comme les Samoa, où il y avait 80% de la barrière qui était morte ou blanchie. En revanche, à 100 000, donc on va dire à 200 km d'ici, à Wallis et Futuna, 90% étaient en très bonne santé.
Sophie, vous m'entendez ? Allô ?
Oui.
J'ai une question pour le capitaine Martin Herto. Comment est-ce que s'organise le travail sur Tara, le travail avec les scientifiques et les marins pour l'échantillonnage, par exemple ? Les scientifiques doivent plonger ou c'est les marins ? Comment ça se passe ?
En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que les scientifiques qui viennent à bord, comme les marins, ont tous des brevets de plongeurs professionnels. Il y a deux équipes. Il y a l'équipe corail, donc là, c'est surtout les scientifiques. Et il y a l'équipe plancton, puisque, comme je disais tout à l'heure, on fait deux prélèvements différents. Les marins plongent surtout pour l'équipe plancton. Mais il y a le dive master qui est dédié aussi à l'assistant de l'équipe corail. Et donc, les prélèvements sont faits comme ça. Donc, la journée commence à 7h du matin. Ensuite, il y a le tri d'échantillons et les protocoles de conservation. Et ensuite, on navigue dans une autre... On met les voiles et on navigue vers un autre archipel.
Sur les 40 sites, 40 récifs coralliens visités, vous avez carotté. Pourquoi et qu'est-ce que vont nous dire les carottes ?
En fait, une carotte, on estime que le corail grandit à peu près de 8 mm à 1 cm par an. Ce qui fait que sur un mètre de carotte, on arrive à remonter à 100 ans à peu près les paramètres de température, CO2, de acidification. Et donc, ça permet d'avoir une bonne lecture de ce qui s'est passé avant et comment ils ont évolué ou comment ils vont évoluer peut-être avec les modifications de ces paramètres.
Allô. Est-ce que la goélette, on peut dire que c'est une plateforme scientifique unique en son genre aussi. C'est-à-dire que sa taille, son faible tirant d'eau, ça lui permet d'aller un peu partout.
Voilà, elle est unique d'une part effectivement par ses caractéristiques techniques, mais elle est unique notamment aussi par son brevet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour affréter un bateau aux océanos, ça coûte très cher, c'est pour une durée limitée. Aujourd'hui, avec Tara, sur un petit bateau marine marchand, on peut faire de la science à l'échelle planétaire. Et en grande collaboration avec plein de laboratoires européens et américains. Donc c'est non seulement le fait qu'elle soit petite, mais aussi effectivement ce fait de temps en fait. C'est une échelle de temps qui est énorme. Là on part pour 2 ans et demi d'expédition et il y a très peu de bateaux dans le monde qui échantillonnent sur une échelle de temps aussi large.
Ce qui est assez étonnant, c'est que le matériel scientifique ici ressemble en fait assez... ressemble pas mal à ce que l'on peut trouver sur un navire océanographique de grande taille. Néanmoins, vous avez dû imaginer, adapter les outils.
Effectivement, en fait, sur Tara, et comme je le disais, c'est 36 mètres de long et 10 mètres de large, donc en fait, on doit adapter la plupart des outils, comme les rosettes CTD qu'il y a sur tous les bateaux océanaux. Et en plus, pour cette expédition, on a créé donc un HSL, en fait, c'est le High Speed Net, qui nous permet de continuer...
Un filet haute vitesse,
qui nous permet de continuer les prélèvements entre chaque archipel, avec un dolphin, en fait, le dauphin, qu'on met à l'eau à côté, et qui nous permet de faire du pompage, en fait. Et du coup, de filtrer de l'échelle du virus au krill, grosso modo. Et ça, c'était créé juste pour cette expédition Pacifique, ce sont des prototypes typiques de Tara.
Alors, le dauphin, il ne faut pas imaginer ça comme un animal. Hein.
Non, bien sûr que non, c'est une espèce de grosse bouche en acier.
Qui aspire l'eau.
Qui aspire l'eau, qui pompe l'eau, tout à fait. Hein.
Sophie, quand est-ce que vous rentrez à Lorient, alors pour le public aussi, qui pourra fêter le retour de Tara, demain, je crois, hein.
À 16h30 à peu près avec la marée demain pour rentrer dans le chenal de l'Orient. En général, chaque retour de ce bateau est salué par une armada de plaisanciers. Il y a beaucoup de monde. La météo apparemment ne sera pas avec nous puisque comme vous l'avez compris, il y a du vent, oui. Un peu de pluie. Néanmoins, c'est toujours une grande aventure de voir rentrer au port, tous en très bonne santé et surtout avec dans les cales beaucoup de science, cette goélette.
Voilà, Hervé Le Guyader, vous auriez pu mettre l'aventure Tara aussi hein, dans cet ouvrage, parce qu'on est vraiment dans la tradition de ces grandes expéditions naturalistes, là aussi. Hein.
Oui, c'est une reprise depuis, disons, une vingtaine d'années. Oui. Il y a eu vraiment un creux, mais moi je me suis arrêté après Darwin.
C'est ça.
Mais
il y a encore d'autres ouvrages à écrire.
Ah, si un deuxième tome, il y aura Tara.
Oui. Merci beaucoup Sophie Bécherel, et vous allez rentrer à Paris maintenant, parce que la semaine dernière en Guyane, aujourd'hui sur Tara, il va falloir reprendre le chemin des studios, et on vous retrouvera bien sûr dans le club de la Tête au Carré. Merci beaucoup à toutes les équipes, et puis donc rendez-vous pour tous ceux qui sont à Lorient demain après-midi pour le retour de Tara. Merci Caroline Tourbe, et on se retrouve la semaine prochaine. Just some fun and games. Took my name.
another day now. Farming playgrounds, bend the rules now. Know the rules now, play the rules now. It's institutional resolutions, lack of direction, intersections. Pick up a gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. Look at front to back, through the shotgun shack. You've decided to slow, to run fast, catching up with you, too slow to move, it's gonna get you, the playground rules, you can cry. Shotgun shack, living in the shotgun shack, living in the back, living with the shotgun, living with the gun, living with your back to the wall. Pick up the gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. You can cry now, don't even try. No way you can turn, you can even run away. Two can cry now, don't even try to ride. You can hide now, you can even turn away. You can cry.
Shotgun Jack, c'était Néné Chéri à l'instant.
La tête au carré, le club.
Allez, au menu de notre club cet après-midi, la thérapie photodynamique pour soigner le cancer par la lumière, les grandes expéditions naturalistes pour une aventure sur la biodiversité, et puis les créatures animales aux capacités inattendues, comme vous le verrez. Et vous pouvez déjà nous rejoindre avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Aline Richard, vous êtes la rédactrice en chef du site The Conversation et vous publiez aujourd'hui donc un article de notre invitée Céline Frochot, qui est directrice de recherche CNRS dans le laboratoire Réaction et Génie des procédés. Qu'est-ce que ce laboratoire d'ailleurs, Céline Frochot, exactement ?
Alors, c'est un laboratoire qui fait effectivement du génie des procédés, mais il y a aussi des chercheurs qui font de la chimie, comme moi, voilà, donc ça dépend de l'université de Lorraine.
Voilà, exactement, et vous signez donc cet article intitulé « Peau, cerveau, plèvre, prostate, de la lumière pour soigner le cancer, sujet santé », puisqu'on retrouve toutes les disciplines sur The Conversation.
Tout
Aline
à fait,
Richard, hein.
Sujet santé, Conversation est très attentive à suivre les nouvelles, bonnes ou mauvaises, de la recherche. Bah là, c'est plutôt des bonnes nouvelles dans le domaine du cancer. L'article signé avec Serge Mordon, qui est un chercheur à l'INSERM, nous raconte comment illuminer une tumeur peut servir à la réduire, sinon à l'éradiquer, comme va nous raconter tout ça
Céline Frochot, puisqu'en 2016, d'ailleurs, vous signiez déjà pour The Conversation un article pour évoquer donc cette technique. Alors, très peu connue du grand public, j'avoue que je ne la connaissais pas dans ce domaine de la cancérologie, et pourtant déjà largement utilisée pour traiter différents types de cancers. D'abord, un mot peut-être sur la pathologie, sur le cancer, sur les cancers, évidemment, parce que c'est tellement large qu'il faut chercher dans de très très nombreuses directions pour essayer de trouver justement des solutions thérapeutiques.
Effectivement, il faut trouver différentes solutions thérapeutiques selon le type de cancer.
Oui.
La recherche interdisciplinaire est vraiment au cœur, nous, de nos recherches, parce qu'il faut des médicaments, bien sûr. Mais en l'occurrence, pour la thérapie photodynamique, il faut aussi de la lumière. Donc, il faut des chimistes, il faut des photophysiciens. Il faut se mettre en relation avec les cliniciens, parce que passer du laboratoire à la clinique, c'est pas si évident. Ouais. Donc, c'est vraiment des travaux vraiment interdisciplinaires où toutes les disciplines sont importantes, les biologistes, les immunologistes, pour trouver des nouvelles solutions thérapeutiques.
Ouais, alors, quand on parle justement d'un outil comme ça, d'une technique qui est déjà utilisée, ça veut dire qu'en amont, il y a combien d'années, voire de décennies de recherche avant d'être capable de l'utiliser, de le proposer justement
à des
malades ? Alors,
le terme thérapie photodynamique est sorti en 1904.
Ah, ouais.
Ensuite, il y a eu énormément de chimie, de fait, sur les molécules.
Ouais.
Et la première autorisation, c'était en 1993 aux États-Unis. Donc, c'était le cancer du poumon et de l'œsophage de Barrett. Et quelques temps après, en Europe. Donc, en Europe, la PDT, pomme de terre, la PDT est arrivée dans les années 2000. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux essais cliniques. C'est pour ça qu'on a fait ce nouvel article. Parce que, on voit que ça avance. En ce moment, il y a 10 essais cliniques qui recrutent en Europe.
Alors justement, on va écouter le sujet d'un reportage qui a été tourné à Lille, précisément, autour du cancer du cerveau et justement autour de cette thérapie photodynamique.
Cette patiente de 53 ans est atteinte d'une tumeur au cerveau, un glioblastome. La patiente va pouvoir bénéficier d'une technique innovante en essai clinique au CHU de Lille.
Alors, le dispositif, c'est simplement un ballon qu'on va insérer dans la cavité opératoire. Lors de l'intervention, on utilise un liquide qui va transporter la lumière. Et pour la thérapie, on utilise une lumière rouge qui va pénétrer plus profondément dans les tissus. Alors, on amène la lumière rouge par le biais d'une fibre optique, voilà, où on a ici une partie diffusante.
Diffusée de manière homogène dans ce ballon, c'est la lumière laser rouge qui va créer une réaction photochimique. Des dérivés toxiques vont ainsi détruire les cellules tumorales isolées qui n'ont pas pu être enlevées en chirurgie. Ainsi, les tissus sains, eux, sont préservés.
Je vais tirer, lunettes, c'est parti.
5 illuminations au laser rouge sont ainsi réalisées pendant une quinzaine de minutes. Objectif, évaluer d'ici moins d'un an l'intérêt de cette thérapie contre une tumeur incurable, avec l'espoir, peut-être, de prolonger le pronostic vital des patients.
Voilà, c'était en novembre 2017, donc il y a un an tout juste au CHU de Lille. Aline Richard.
Oui, je suis frappée de voir l'utilisation, les progrès de l'utilisation du laser en médecine. On a vu le dernier prix Nobel de physique sur le laser femtoseconde qui est utilisé en chirurgie oculaire de façon absolument extraordinaire. Et là, on voit avec la photodynamique une autre utilisation tout à fait innovante.
Céline Frochot, comment il faut l'entendre justement comme un complément de traitement? C'est ce qui ressortait là justement du doc qu'on a entendu.
Alors, selon le type de cancer traité, soit ça peut être un complément. Et là, en l'occurrence, pour le glioblastome,
donc
c'est
le
encore
cerveau,
mieux.
Hein.
Le glioblastome, qui est ce cancer très agressif du cerveau, la PDT peut être faite en première intention. Donc ça, c'est pour ça que c'était une première mondiale. Souvent, la PDT, elle vient en complément des autres thérapies. Mais là, pour le glioblastome, il est aussi possible de la donner en première intention.
Alors justement, cette technique, on l'utilise en particulier dans la dermatologie, dans le cancer de la prostate également. Pour la peau, de quelle façon
alors en dermatologie, alors peut-être que je pourrais rappeler brièvement le concept de la PDT. Donc pour qu'il y ait thérapie photodynamique, en fait, on a besoin d'un médicament, donc une molécule. Alors, soit on l'applique sur la peau, soit on peut l'ingérer, soit on la fait de voie intraveineuse. Le deuxième élément essentiel, c'est la lumière. Et si on a en même temps la molécule et la lumière au même endroit, en présence d'oxygène, on va détruire. Donc vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un médicament, de la lumière et l'oxygène présent dans les milieux.
Et donc cette association, là, ce trio que vous décrivez, il est là justement pour cibler les cellules cancéreuses.
Hein. Voilà, parce qu'on a cette action uniquement si on a la lumière et la molécule et l'oxygène. Donc si la lumière, on peut soit cibler la lumière, soit cibler la molécule, mais de toute façon quand on a les trois en même temps, c'est là où on détruit. Donc pour la peau, effectivement, on met la crème qui contient la molécule sur la peau, on envoie de la lumière et on détruit. Et la nouveauté en ce moment, donc c'est les tissus lumineux qui ont été développés à Lille. Donc ça, c'est pour les kératosactiniques, c'est des petites lésions précancéreuses. Et donc, à Lille, ils ont développé des bonnets lumineux qui permettent de répartir la lumière correctement sur toute la zone, parce qu'on voit bien que c'est bien adapté, ces tissus, à l'anatomie.
Oui.
Donc là, les molécules sont sélectives et la lumière est appliquée vraiment sur la tête, en l'occurrence c'est sur la tête.
Et c'est un bonnet en tricot, sauf que le tricot c'est des fibres optiques qui sont tricotées comme...
Exactement, comme un tricot. Pas tricoter, mais il y a des gens qui savent tricoter des fibres lumineuses.
Donc ça veut dire qu'on arrive à diffuser la lumière sur l'ensemble du cerveau tout en localisant les tumeurs, donc les cellules cancéreuses à traiter, hein, c'est ça.
Dans ce cas-là, oui.
Et donc ça c'est une première, ce que vous décrivez là finalement, cet usage-là.
Donc l'usage en dermato est fait depuis longtemps.
Oui.
En revanche, le développement des tissus lumineux est nouveau.
Oui. Donc là, c'est vraiment une technique en plein essor.
C'est une technique en plein essor.
Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser pour bon nombre de cancers ou quand même certains en particulier? Et pourquoi dans ce cas-là?
Donc la thérapie photodynamique, elle est utilisée. Donc elle était beaucoup utilisée en ophtalmo,
oui.
le J, donc dans les années 2000. Et depuis, il y a des nouveaux traitements. Donc elle est un peu moins utilisée, mais toujours pour certains types de traitements de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc comme vous l'avez souligné, et je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'auditeurs, depuis novembre 2017, elle est autorisée en France pour soigner le cancer de la prostate. Donc on peut utiliser la thérapie photodynamique pour soigner le cancer de la prostate.
En première intention ?
Pas en première intention, à ma connaissance, mais on a vu que dans les études cliniques, donc il y avait 413 patients qui étaient impliqués sur 47 centres, une vingtaine en France. On a vraiment des effets vraiment très très positifs.
Comment on fait le choix d'ailleurs d'utiliser telle ou telle technique alors face à un cancer finalement? C'est par l'expérience, par le succès obtenu, et du coup en cas d'échec justement, on va tenter une autre technique?
Alors là, je ne vais pas vous répondre parce que je ne suis pas clinicien. Et j'aurais peur de dire une bêtise. Donc je préfère pas répondre, je suis chimiste.
Prudente, et vous restez dans votre
tout
discipline.
Tout à fait, je reste dans ma discipline. Même si c'est un travail interdisciplinaire, je pense que chacun a sa discipline, la connaissance des autres disciplines, la synergie, tout ça, on est chacun un petit bout de puzzle. Mais je pense qu'il faut être aussi un petit peu prudent sur ses propres connaissances.
Alors ces cellules, justement, une fois qu'elles sont visées par le laser, elles sont définitivement détruites ou il y a quand même des cas de récidive, justement?
Alors elles sont détruites, mais même, alors par exemple pour le cas de la dermato, les kératosactiniques, imaginons qu'on fasse une séance PDT et que tout ne soit pas détruit, on peut très bien réitérer. Et c'est un avantage de la thérapie photodynamique, c'est qu'on peut réitérer ce traitement plusieurs fois, sans qu'il y ait de résistance, sans qu'il y ait de... Voilà.
Donc c'est moins lourd, évidemment, que des traitements qui, par la répétition, justement,
tout
vont fatiguer les tissus ou les organes.
Hein. Alors, c'est moins lourd. En revanche, je ne dis pas que la PDT va remplacer toutes les autres thérapies. Hein. Il faut aussi être honnête. Ça peut être un complément. Ça peut être, dans certains cas, en première intention. C'est une autre piste pour soigner les cancers.
Sur quoi vous travaillez alors justement, toujours évidemment, autour de cette photothérapie dynamique aujourd'hui pour tenter encore d'améliorer des choses et d'avancer efficacement sur le front du cancer?
Donc je vais vous répondre en deux temps. On travaille donc avec le LCPM et l'équipe de Serge Mordeau en Contagne. On a déposé un brevet. On a l'aide de la SAT pour travailler sur le traitement des métastases du cancer de l'ovaire, qui est aussi une impasse thérapeutique. Il faut savoir que c'est vraiment, il y a 60% de récidive. Donc là, on a trouvé une molécule très spécifique. Donc, on travaille là-dessus au niveau de la recherche, au niveau recherche préclinique, pardon. Et au niveau de la recherche, alors il y a beaucoup de choses qui se font en France. Alors, tant sur les médicaments, donc c'est des molécules qui peuvent être plus sélectives ou qui peuvent absorber la lumière mieux que ceux qui existent déjà. Il y a aussi pas mal de recherches sur tout ce qui est lumière, donc des nouveaux dispositifs lumineux, tout ce qui est contrôle de la dosimétrie. Et puis en biologie, connaître les mécanismes. Alors les biologistes, ils sont très importants évidemment, parce que si on veut cibler une cellule cancéreuse, il faut connaître les récepteurs qui sont surexprimés. Et puis, donc il y a aussi tout ce qui est antibactérien qui est pas mal développé. Et des choses nouvelles en train de se mettre en place aussi à Lille, tout ce qui est la réponse immunitaire suite à la thérapie photodynamique.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire
Parce
exactement
qu'on se rend compte que suite à la thérapie photodynamique, en fait, on peut booster le système immunitaire. Donc, on aurait un double effet.
Ce qui est absolument essentiel, évidemment, en cas de cancer.
Voilà. Hein, c'est d'avoir donc, ça, c'est des choses qui sont en train de
solide.
Se mettre en place. Voilà, donc avec une équipe de Lille aussi.
Donc, beaucoup de recherches très prometteuses hein, et, voilà. et très dynamiques, évidemment, autour de ce secteur. Donc, la photothérapie dynamique, la pomme de terre, comme vous disiez tout à l'heure, pour retenir en tout cas les initiales de cette technique de plus en plus utilisée. Et on peut lire l'article concernant justement cette technique, Aline Richard, sur le site de The Conversation. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va prendre le grand large et on va parler des grandes expéditions scientifiques qui ont marqué justement l'histoire de la biologie.
Alors elle s'efface quand les vérités sont banales. Elle s'étale dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux. Chant d'amour. Mobis, immobile. Mobis, immobile. Mobis, immobile. J'irai de l'avant contre le vent.
Souvenir de la décennie 90 avec Mobilis Immobilier, l'affaire Louis Trio.
La tête au carré, le club.
sur France Inter.
Nouvel invité du club, Hervé Le Guyader, professeur émérite de biologie évolutive à Sorbonne Université. Vous avez dirigé le laboratoire systématique Adaptation Évolution et l'école doctorale Diversité du Vivant. Et vous publiez donc L'aventure de la biodiversité d'Ulysse à Darwin, 3000 ans effectivement d'expédition naturaliste. C'est chez Belin, avec des dessins, il faut dire son nom encore, de Julien Norwood, parce qu'il a fait un travail absolument admirable. Quel talent dans cette tradition d'ailleurs du dessin naturaliste.
Ah, il est très fort. Et surtout, c'est un très très bon naturaliste de terrain. Et en fait, beaucoup de ces dessins sont faits d'après sur le terrain. Et j'ai travaillé en interaction parfaite avec lui. Et disons que de temps en temps, j'avais un côté un peu universitaire en disant ce serait bien d'avoir telle ou telle plante, tel ou tel animal. Oui. Et puis il me passait un coup de fil en me disant Hervé, tu sais, j'ai une plante, un animal, c'est plus joli, c'est ce qu'on peut. Et puis hop, on changeait. Il avait le côté esthétique qui me manquait.
Oui, bien sûr. Mais aussi la rigueur scientifique. Ah, parce que ces dessins, ce sont avant tout des planches scientifiques finalement.
Ce sont des planches scientifiques. Il a fait des planches botaniques d'une précision extraordinaire.
Tout est ultra précis, c'est incroyable.
Absolument. Hein. Et donc, je veux dire, c'est bien, j'ai le droit de dire que ce livre est très beau parce que c'est pas de l'autosatisfaction, ce n'est pas moi qui ai fait les dessins.
Oui, absolument. Mais vous avez signé les textes. Il y a cette méduse, par exemple, qui va plaire à Emmanuel Pouydebat, puisque vous parlez vous aussi des méduses et vous avez vous aussi une très bonne dessinatrice.
Oui,
hein.
On
en parlera tout à l'heure, évidemment. Mais dessiner une méduse comme ça, d'une façon aussi précise, c'est quasiment une photographie, finalement. Hein. Ah, sauf qu'on a la beauté du dessin.
Et surtout celle-là, je voulais absolument qu'il y ait la crinière de lion, qui est le plus grand prédateur avec des tentacules qui peuvent faire jusqu'à 60 mètres de long. Et quand on parle de prédateurs dans la mer, tout le monde pense à des requins, choses comme ça, et oublie les méduses.
On les trouve où d'ailleurs celles-là alors?
Celles-là, c'est surtout dans les eaux froides. Ouais. Hein, dans les eaux froides. Et pour la petite histoire, cette méduse a été connue du grand public parce que Sherlock Holmes a lutté contre la crinière de lion dans une histoire. Ouais. Conan Doyle était médecin et connaissait très bien la biologie.
Et elle a droit à sa page entière. Hein. Il y a une planche entière qui lui est consacrée dans votre ouvrage. Alors il y a plein de noms, évidemment, qu'on connaît, mais qui sont resitués là, dans le contexte de ces expéditions naturalistes. Il y a à peu près, d'ailleurs, tous les noms de rue autour du Jardin des Plantes à Paris, on retrouve justement les héros de ces expéditions dans votre ouvrage. Pourquoi vous avez commencé à Ulysse d'ailleurs? Parce que là, on est quand même dans le mythe.
Je voulais avoir des exemples justement liés au mythe. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi parlé un peu des Chinois avec ces girafes très étranges pour eux.
Les Chinois ont été de grands explorateurs, justement.
Des grands explorateurs.
Avant tout le monde, quasiment.
Avant tout le monde. Avant tout le monde, avant Colomb, ils avaient des bateaux absolument extraordinaires et ils n'avaient pas de scorbut.
Ouais. Hein.
Et Ulysse, parce que, disons, les paléontologues, c'est une hypothèse forte, hein, bien sûr, mais les paléontologues ont sans doute démontré d'où vient le mythe du cyclope.
Ouais. Ah ben ça, on peut le prouver très facilement avec un crâne d'éléphant.
Avec un crâne d'éléphant, c'était des éléphants nains. Et un éléphant nain avec l'endroit où est le nez qui est à l'endroit que l'on imagine être le front. Donc on voit ça, on imagine un grand bonhomme avec un seul œil. Ouais. Et j'en ai profité pour parler justement du nanisme insulaire, de la spéciation liée à cela.
Oui, ben vous allez faire plaisir à Emmanuel Pouydebat, puisque elle commence son livre avec l'éléphant, mais vous étiez fait pour vous entendre, puisque c'est votre animal préféré. Hein,
j'ai commencé par l'éléphant, oui, c'est vrai que moi, une des grandes difficultés, c'était de sélectionner une trentaine d'espèces. Je ne me voyais pas faire un livre sans éléphant, si c'est une espèce relativement connue.
On commence aussi quasiment par l'éléphant avec Hervé Le Guyader.
Voilà, on converge.
Parmi les grands noms, évidemment, Marco Polo, parce que là, vous faites toute la chronologie de ces grandes expéditions. Donc, évidemment, le lecteur pourra les découvrir. On va en évoquer quelques-unes ensemble. Mais Marco Polo, c'est quand même le commerçant italien qui a tout compris et qui a finalement entraîné derrière lui aussi toute une génération d'aventuriers et d'explorateurs. Hein.
Oui, surtout que l'histoire de Marco Polo est vraiment intéressante. On connaît parfaitement son cheminement. Et on connaît les animaux qu'il a pu voir. Donc, en particulier, je parle du chameau. Lyon, qui est quand même intéressant, parce qu'à l'époque, on ne connaissait que le dromadaire à une bosse, et il dit, bah, y en a qui peuvent avoir deux bosses. C'est un commerçant et son histoire est intéressante parce que il n'aurait pas été mis en prison lors d'une guerre entre Gênes et Venise. Eh bien, jamais il n'aurait dicté ses histoires et jamais on n'aurait eu ces merveilles.
Alors c'est vrai qu'il les raconte, hein, évidemment, abondamment. Donc, on a vraiment ces récits qui sont extrêmement précieux, avec d'ailleurs quelques erreurs d'interprétation. Hein, vous citez des exemples célèbres,
bien sûr,
comme le rhinocéros de Sumatra qu'il prend pour la mythique licorne. Hein.
Voilà. Ouais. Alors il cherche la licorne, le rhinocéros de Sumatra, et il dit ben je croyais que la licorne c'était plus joli que ça.
Ouais. C'est ça. Donc quelques petites erreurs, évidemment c'est bien normal puisque ce sont quand même des moments où ces explorateurs découvrent le monde. Donc ils ont fait un travail absolument incroyable. Les cabinets de curiosité, à partir de quand d'ailleurs ils commencent à naître, parce qu'il y a aussi ça qui est important, c'est la collection.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a eu donc l'époque où on va entasser les choses. Mais le terme d'entasser, il n'est pas très bon parce qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'était avoir une représentation microcosmique du macrocosme. C'est-à-dire dans le
réunir dans un lieu réduit
quelque chose qui permet l'unité du monde et de comprendre le monde. Ouais. Et donc maintenant, ça nous paraît complètement abscon parce que il mettait en même temps des peintures, des pièces de monnaie, des restes archéologiques, des animaux, des végétaux. Ouais. Et plus ça venait de loin, plus c'était cher. Alors donc c'était des grandes fortunes qui faisaient ça, mais effectivement, ça a été extraordinairement important. Mais surtout, au point de vue, disons, conceptuel, l'importance du cabinet de curiosité tient au livre. Parce qu'en fait, ces possesseurs des cabinets de curiosité voulaient faire connaître. Donc, ils ont fait faire des dessins, ils ont eu beaucoup de dessinateurs. Mmh. Et la chose, c'est, dans un livre, mais comment vous les classez? Qu'est-ce que vous mettez en premier? Comment vous faites? Et donc, à ce moment-là, s'est posée la question
de la classification. Absolument.
Et de manière concomitante, les botanistes qui revenaient avec des plantes et qui les mettaient dans un jardin botanique, ils disaient, mais comment je les mets dans un jardin botanique? Lesquels je mets l'une à côté de l'autre? Et c'est à ce moment-là que a commencé, mais comment je fais la classification? Et bien évidemment, cette classification, eh bien, ça va être à un moment donné, des grands botanistes, comme par exemple Bernard de Jussieu, et puis...
Carl von Linné, quand même.
Linné, bien évidemment, était donc contemporain. Et puis, bien évidemment, la compréhension de cette classification, ça va être Darwin.
Ouais. Alors Darwin, justement, son grand voyage sur le Beagle. D'ailleurs, un voyage en mer, mais beaucoup de temps sur Terre, hein, parce que c'est quoi? C'est 3 années, c'est 5 années de voyage en tout, mais c'est 3 années et 3 mois sur Terre et le reste donc en mer. Hein.
Oui, voilà. Bon, moi, j'ai voulu essayer de remettre les choses en place aussi de ce point de vue-là. On vient de parler de Tara et je lis souvent dans les journaux Tara qui refait le voyage de Darwin. Non, il refait pas le voyage de Darwin. Darwin n'a jamais été voir le plancton. Si Darwin a vu un peu les coraux, a parlé des coraux, mais en fait, Darwin va sur le Beagle et en fait, c'est un navire militaire qui est chargé de faire la cartographie de l'Amérique du Sud. Ouais. Donc, il fait la cartographie et Darwin descend à chaque fois et bien évidemment, au départ, il descend et découvre des choses. Il dit de grosses bêtises. Et au fur et à mesure, il s'affine. Et ce que je trouve extraordinaire chez Darwin, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une erreur, il revient sur son erreur et il va en tirer quelque chose.
Et vous dites, il donne une histoire au vivant. Hein. Finalement, c'est son apport aussi, bien sûr, avec sa théorie. On va retrouver Darwin. Alors, écoutez bien, parce qu'il n'a pas fait que des choses bien, Darwin, comme le prouve ce document qu'on a pu entendre dans l'émission Partir avec de Stéphanie Duncan. Et c'était aux îles Galapagos.
Sur l'île Chatham, pendant ma promenade, je rencontrais 2 immenses tortues. Chacune d'elles devait peser au moins 200 livres. L'une mangeait un morceau de cactus. Quand je m'approchais d'elle, elle me regarda avec attention, puis s'éloigna lentement. L'autre poussa un coup de sifflet formidable et retira sa tête sous sa carapace. Ces immenses reptiles entourés par des laves noires, des arbrisseaux, d'immenses cactus, me semblaient de véritables animaux antédiluviens. La tortue aime beaucoup l'eau. Celles qui habitent les régions basses sont obligées, quand elles ont soif, de faire de longs trajets. À force de passer par le même chemin, elles ont tracé de véritables routes qui rayonnent dans toutes les directions, depuis les sources jusqu'à la côte. Il est fort curieux de voir, auprès des sources, une grande quantité de ces immenses créatures, les unes se dirigeant rapidement vers l'eau, le cou tendu, les autres s'en allant tranquillement, leur soif étanchée. Il n'y a rien de plus amusant que de dépasser un de ces gros monstres qui cheminent tranquillement. Souvent, je montais sur leur dos, mais il est très difficile de se tenir debout sur une tortue pendant qu'elle marche.
Vous imaginez Darwin sur le dos des tortues géantes, des Galapagos, on imagine les associations de défense des animaux scandalisées par cette maltraitance. Voilà, mais il a tout testé. Ah bah évidemment, il découvrait tout ça, donc ça devait être absolument extraordinaire pour lui aussi.
Il découvrait tout ça, mais il n'avait pas compris l'intérêt des tortues. Il ne l'a compris que quand il est revenu à Londres. Parce que quand ils sont partis des Galapagos, Fitzroy a fait embarquer 50 tortues pour avoir de la chair, pour pouvoir nourrir. Il n'a pas gardé les carapaces des 50 tortues. Qui était, et c'est en arrivant qu'on a dit, mais les différentes tortues, c'est sans doute différentes espèces. Et donc, voilà.
Ouais. Et puis, évidemment, Wallace. Et c'est votre préféré, d'ailleurs, vous me disiez hors antenne, Hervé de Guyader, qui a été dans l'ombre de Darwin, parce qu'il y a eu quand même une simultanéité de leurs théories, là, qui se sont entrechoquées. Et puis, Darwin a été le plus célèbre, Wallace. Et pourtant, pourquoi est-ce que vous le préférez à Darwin, d'une certaine manière?
Parce que Wallace, c'est le meilleur sur le terrain. Il a passé son temps sur le terrain, et ce que Wallace a vraiment passé son temps à démontrer, c'est en particulier lorsqu'il a étudié les papillons, avec le mimétisme des papillons, qu'il a démontré l'évolution sur le terrain. Darwin, bien évidemment, il a tiré des conclusions de ses études et aussi de tout ce qui est sélection artificielle qui se faisait en Angleterre. Mais Wallace, il est resté sur le terrain. Et Wallace, comme il était d'une autre génération, quand il a compris, quand il a eu cette idée de sélection, il a envoyé un brouillon à Darwin. Et donc, c'est ce qui a lancé pour Darwin la publication de l'origine des espèces. Mais il a fait publier le brouillon de Wallace sans que Wallace l'ait un peu corrigé. Je veux dire, il y a eu un petit peu des petits micmacs. Mais bon, il est clair que Darwin avait une réflexion de 20 ans sur la sélection que Wallace venait de découvrir. Donc les textes de Darwin sont plus forts. Mais comme je voulais décrire sur le terrain, qu'est-ce que vous voulez, Wallace qui va de l'Amazonie, puis ensuite qui va dans les Philippines, qui découvre les oiseaux de paradis, etc., c'est fabuleux.
Avec ses dessins qui le sont tout autant, signé donc Julien Norwood, s'appelle L'aventure de la biodiversité, un très beau livre donc à offrir pour les fêtes de fin d'année, on peut déjà y penser, de Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste, c'est aux éditions Belin. Allez, dans un instant, autre très bel ouvrage pour parler d'animaux tout à fait curieux.
C'est un peu notre endroit pour
Le goût du sel, c'était minuit.
Le club sur France Inter.
Emmanuelle Pouy-de-Bas, vous êtes biologiste de l'évolution, directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur de ce livre illustré, l'Atlas de zoologie poétique, avec les dessins de Julie Terrazzoni, qu'il faut également citer. C'est aux éditions Artaud. Est-ce que vous avez travaillé comme Hervé Le Guyadère d'une façon très rapprochée,
oui,
comme ça, avec votre illustratrice?
Complètement, avec justement le même apport pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des espèces auxquelles j'avais pas forcément pensé. J'étais partie sur le triple, voire le quadruple de ce qu'il fallait sélectionner.
Oui.
Et Julie m'a vraiment aidée justement à en sélectionner certaines que je n'aurais pas forcément mises dans l'ouvrage.
Oui.
Justement aussi pour des raisons un peu esthétiques et poétiques. Et comme ma foi, il y a de l'unicité dans chaque espèce, c'était facile de trouver des choses extraordinaires parmi elles.
Dans un autre style, hein, totalement différent aussi autour de ces animaux. Qu'est-ce que vous étudiez d'abord, vous, en tant que biologiste de l'évolution, Emmanuel Pouy-de-Bas?
Je travaillais beaucoup sur l'évolution des comportements.
Parce que vous êtes éthologue hein, aussi.
Alors, c'est compliqué. Disons que je travaille sur l'évolution des comportements. J'ai une formation en anthropologie, puis en biologie, puis sur le terrain en éthologie. Donc, vous voyez, c'est assez interdisciplinaire.
Alors, je me souviens que vous, on a parlé des outils chez les primates, par
exemple.
Oui,
tout à fait.
C'était un sujet de recherche.
J'ai beaucoup travaillé sur l'évolution des comportements de manipulation, donc utilisation d'outils incluses dans ces manipulations.
Mm-hmm.
Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les primates pour commencer. Et puis, petit à petit, j'ai regardé un peu d'autres mammifères, éléphants, carnivores. Et puis, je me suis sortie des mammifères. Je suis même chez les arthropodes, donc vous voyez.
Ouais.
Donc, ça va. En ce moment, mes travaux vont de l'éléphant, enfin en termes de taille, de l'éléphant jusqu'à
les
petites araignées et les crevisses
aussi.
Donc vous voyez, c'est assez varié.
Qu'est-ce qu'il y a comme thème de recherche sur les crevisses? En quoi ça peut être intéressant?
Alors, je débute en écrevisses.
Hein. Tout reste à faire.
C'est passionnant. Écrevisses, Bernard l'ermite, sont des espèces qui ont des capacités de manipulation tout à fait étonnantes. Pourtant, il n'y a pas cinq doigts hein, comme nous. Hein. Donc, ça a l'air plus facile parce qu'il y a moins de doigts et pourtant, elles font des choses relativement complexes en fonction du type de substrat, du type de nourriture, pour attaquer, pour se défendre, selon que ce soit des Bernard l'ermite terrestres, aquatiques, etc. Donc il y a plein de questions écologiques et évolutives qui se posent derrière ces animaux-là.
Allez, Richard, vous intéressez aux écrevisses, vous aussi?
Oui, Emmanuel, on voudrait bien un article sur
les écrevisses
dans Conversation.
Vous l'aurez certainement très prochainement. Alors cet atlas de zoologie poétique, comment on peut le présenter d'ailleurs aux auditeurs, puisque c'est quand même un livre très personnel, c'est un choix que vous avez fait de présenter 35 animaux très étranges, bizarres, avec des capacités tout à fait singulières.
Ouais, l'idée c'était vraiment, j'avais vraiment envie de transmettre mon émerveillement de la nature, donc pour des animaux très différents en termes de comportement. Alors pas forcément ce qui se fait de plus tendre, pas forcément ce qui se fait de plus agressif, mais
c'est
un mélange de comportements et surtout montrer vraiment mon émerveillement pour ces prouesses de la nature.
Donc l'émerveillement pour votre animal de cœur, l'éléphant, le plus gros de tous hein, sur Terre en tous les cas. La mémoire d'éléphant, c'est pas une légende d'ailleurs.
Ah non,
vous revenez là-dessus.
Non, c'est ça, c'est une idée reçue qui est tout à fait justifiée. Hein.
Ouais.
Une mémoire spatiale, mémoire auditive, olfactive. Les éléphants en période de sécheresse ont une mémoire spatiale exceptionnelle. Pour parcourir chaque jour plus de 60 km pour trouver une petite source en eau. D'ailleurs, quand ils en trouvent, ils peuvent aussi la recouvrir des corps sous de feuillage pour éviter l'évaporation.
Mmh.
Par exemple.
Ah, pour la protéger.
Oui, éviter l'évaporation. Ils ont une mémoire aussi auditive. Hein. Ils savent très bien si potentiellement autour sont des Maasai ou des touristes, hein, parce qu'ils vont très bien se souvenir des voix. Ils ont aussi des capacités sensorielles étonnantes. Ils vont détecter des secousses sismiques à plus de 100 km. Ils détectent les infrasons des nuages. Enfin bon, il y a des capacités étonnantes d'utilisation d'outils aussi hein, chez
Céline
les éléphants.
Céline Frochot, ça vous surprend apparemment.
Est-ce qu'ils peuvent détecter des cellules cancéreuses?
Ah, bonne question. Alors pour les éléphants,
est-ce qu'il y a des animaux?
Oui, bien sûr. Oui. Bah, les chiens, ça marche très
les
bien.
Les chiens,
ça marche très bien. Tout a une odeur. Hein. Il suffit de trouver l'espèce qui va détecter cette odeur. Pour les éléphants, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'applications possibles. Enfin, quoique, on peut tout imaginer finalement. Ça prend un petit peu de place dans un laboratoire.
Voilà, Hervé Le Guyadère.
Oui, attendez, il y a le génome de l'éléphant a été décrit. Ils ont des gènes très particuliers de lutte contre le cancer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pseudogène qui a été ressuscité, qui a été remis en place.
Ah oui?
Ah oui, absolument.
C'est-à-dire qu'il a existé, il a disparu chez l'éléphant, il est revenu après?
Oui, il n'a pas disparu, le pseudogène était inactif.
Silence, ouais.
Et il a été remis chez tous les proposidiens, hein, il y a 40 millions d'années.
Emmanuel Pouy-de-Bas, le pangolin, le pauvre pangolin. pangolin, parce que, alors, on parle vraiment de la disparition, en tout cas, et du braconnage des éléphants, mais alors, le pangolin...
Il n'est pas gâté, le pauvre.
Oui, c'est ça. Hein.
Non, il n'est pas gâté, c'est une espèce qui est...
Encore plus menacée que les éléphants.
Encore plus menacée. Je ne sais pas si c'est un concours, les pauvres, mais les éléphants, on estime qu'il y en a un qui meurt toutes les 15 minutes. Ou 15 secondes même, je crois, j'ai plus le chiffre, c'est assez catastrophique. Et les pangolins, on a
mammifères à écailles et sans dents, hein, pour se
oui, mammifères à écailles et sans dents, j'aime bien, parce que, évidemment, les gens ont parfois une idée des mammifères, voilà, qui est assez recentrée, finalement. Et là, voilà, il a pas de dents, il a des écailles, il se met en boule pour se protéger. On a eu la chance d'en avoir au laboratoire il y a quelques années. Ils ont des capacités de préhension, moi, qui m'intéressaient beaucoup à ça, qui sont extrêmement puissantes. Ils ont des forces, mais incroyables. J'en ai eu un sur le bras, j'arrivais pas à enlever, c'était un petit peu encombrant au bout d'une journée.
Mais c'est très chic d'avoir son pangolin.
C'est assez chic, ma foi, oui. Moi qui aime bien l'originalité, j'étais servie. Mais c'est un animal qui est vraiment, vraiment, vraiment passionnant.
Si vous êtes embêté par les insectes, d'ailleurs, prenez un pangolin chez vous, hein, parce que c'est un dévoreur d'insectes.
C'est un dévoreur, oui, faut pas que les insectes se passent trop près de lui.
Vous dites que c'est un animal très créatif, le pangolin ? Époustouflant et très créatif.
Alors, il va être créatif, oui, pour trouver sa nourriture, pour se déplacer. Là aussi, il y a tout un tas de capacités cognitives chez le pangolin qui sont d'ailleurs probablement sous-étudiées de par sa rareté aussi. Hein.
Ouais. Parlez-nous du cacapo, s'il vous plaît, Emmanuel Puy-de-Bas, parce qu'on aime beaucoup le cacapo. Et c'est boum, d'ailleurs, les boums du cacapo.
Je suis ravie
ça
que
pourrait
vous...
faire un
Je
titre.
Je suis vraiment ravie que vous me parliez du cacapo.
Ça
fait beaucoup
rire
mon fils, d'ailleurs.
C'est vos étudiants qui vont être
Alors
contents.
Là, c'est Rémi Lefebvre, surtout, pour ne pas le citer. Il va être ravi que je le cite, d'ailleurs, qui est doctorant
chez nous. C'est le cacapo. Voilà, c'est très agréable comme son. Il fait un drôle de bruit
quand même, cet
animal.
Faut bien imaginer que ça, c'est pas pour rien qu'il fait ça, le cacapo. Merci à Rémi encore une fois de m'avoir donné cette idée magnifique. Le cacapo fait en fait des cuvettes.
Donc c'est un perroquet.
C'est un perroquet, pardon. Ah. Oui, accessoirement, c'est un perroquet qui ne vole pas. Et ça, je trouvais ça assez poétique. C'est pour ça qu'il est dans l'ouvrage. C'est un perroquet qui ne vole pas, mais en revanche, il a des très bonnes capacités de préhension de nouveau, et donc il grimpe très bien dans les arbres, par exemple. Mais il crée des cuvettes, et donc c'est-à-dire des petits trous qu'on appelle des lecs. Il se met dans la cuvette et il va faire ce bruit magnifique que vous avez entendu pour attirer les femelles. Et c'est pas rien, parce qu'il va le faire quand même pendant 6-8 heures.
Et ça marche.
Pas toujours. Faut être honnête, pas toujours, mais enfin de temps en temps quand même.
Ne vous inspirez pas du cacapo en tout cas.
Je suis pas sûre que ce soit... Enfin, disons oui, parce que ça marche, mais non, parce que c'est très coûteux quand même. Hein. C'est 6-8 heures pendant 3-4 mois.
Ah oui, comme... Oh là là.
C'est des milliers de booms par jour, et il perd la moitié de son poids. Par contre, ça peut être assez efficace pour perdre du poids.
Oui, c'est ça, effectivement.
Donc ça dure quand même 3-4 mois, il attire les femelles. Malheureusement pour lui, il attire aussi un petit peu les prédateurs en faisant ça.
Ben oui,
donc c'est un compromis
c'est
qui
sonore.
Est pas forcément très...
On va écouter un petit reportage sur le cacapo de Nouvelle-Zélande.
Incapable de voler, le cacapo est une des raretés de Nouvelle-Zélande. Il en reste moins de 160 à l'état sauvage. Avec ses 4 kilos, c'est le perroquet le plus lourd du monde. Ses ailes ne sont plus assez puissantes pour soulever sa pesante carcasse. Alors il est devenu un grimpeur hors pair par la force des choses.
Bah oui, mais à force de faire du bruit, voilà, c'est une proie facile, le cacapo.
Exactement.
Hein.
Alors, il y a des programmes de protection locale qui fonctionnent relativement bien. Ils sont sur des petites îles isolées pour les préserver.
Préservons le cacapo. Le caméléon panthère est magnifique, hein, lui aussi. Il cumule pas mal de prouesses grâce à sa langue, ses yeux. Le camouflage, c'est son truc, hein,
visiblement. Ah oui. Puis alors, la langue, il a une langue qui mesure 2 fois la longueur de son corps. C'est une vraie catapulte. Faut imaginer que pour un humain, ça représenterait d'attraper un burger de 10 kilos avec la langue.
Rien qu'avec la langue.
Oui. C'est de 100 km/h en 1/100 de seconde. Hein,
voilà. 20 millisecondes pour attraper une proie.
C'est assez impressionnant.
Avec sa langue. Et il est magnifique lui aussi. D'ailleurs, il est très bien dessiné parce que là, pour le coup, c'est un cadeau offert à l'illustratrice. Hein,
complètement.
Avec toutes ses couleurs.
Avec des yeux aussi d'ailleurs qui sont indépendants l'un de l'autre et qui vont ensuite, au moment de capturer la proie, qui vont ensuite converger vers la proie. Donc vraiment, en termes de détection de proie, c'est aussi assez phénoménal ce qui s'est fait.
Et alors ces méduses qui sont capables d'inverser le processus de vieillissement, parce qu'évidemment ça nous intéresse tous, et ce serait bien qu'en laboratoire d'ailleurs, si c'est trop chaud, ils étudient le vieillissement, ou le rajeunissement, ou l'immortalité d'ailleurs de ces méduses.
Oui, bah certains n'hésitent pas à parler d'immortalité pour ces méduses.
Pourquoi
en fait,
d'ailleurs
Parce qu'elles savent retourner à un stade de polype, c'est-à-dire à un stade juvénile, un stade très, très précoce dans leur développement, par un processus de blocage de mort programmée, disons, et ensuite, et en plus de ça, un remplacement des cellules endommagées. Donc je vous cache pas que forcément ça intéresse beaucoup la recherche scientifique dans le domaine du vieillissement.
Ouais. Cécile Frochot, dans le domaine du cancer, ça pourrait être utile d'utiliser ce type de processus en tout cas ?
remplacement de cellules endommagées, peut-être.
Pourquoi pas, oui.
Il y a quand même des petites pistes intéressantes, pourquoi pas.
Il y a probablement des choses, mais je ne connais pas bien les applications médicales de ce
D'autres animaux nombreux, la taupe anée étoilée, l'araignée pan, qui est toute petite, le ratel, qui est une sale bête, hein, par exemple.
Ah, c'est vous qui le dites, hein.
Écoutez, en tout cas. Et le diable cornu, voilà, par exemple. Il y en a 35 dans cet ouvrage.
Tous aussi extraordinaires les uns que les autres.
C'est l'atlas de zoologie poétique que vous proposez, Emmanuel Pouydebat, avec les illustrations de Julie Terrazzoni, et ça paraît aux éditions Artaud. Merci beaucoup à tous d'être venus dans La Tête au Carré. Toutes les références des ouvrages dont nous avons parlé sont bien sûr sur le site de l'émission. Bon week-end.
Merci.